Grain de sel, une émission de la rédaction. Grain de sel. RVM, Radio Valois-Mulsien. Bonjour à toutes et à tous, c'est Frédéric. Depuis 1988, Sylvie Tepper écrit. Elle a écrit sur des histoires sur les plantes sauvages, des nouvelles pour adultes, des contes pour enfants sur les arbres, des récits de vie pendant la guerre de 39-45 et des romans sur le Moyen-Âge. Je vous propose de rencontrer cette passionnée d'histoire dans les studios de RVM. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Vous êtes de la région ?
Oui, j'habite à Plailly, donc un petit peu au sud de Crépy-en-Valois, exactement à 35 minutes.
Hein. Comment ça se fait que vous êtes passionnée par l'histoire, mais du Moyen-Âge ?
Alors, c'est amusant, cette passion du Moyen-Âge est venue par la musique. Je joue de la flûte à bec, principalement de la musique baroque. Et un jour, notre chef d'ensemble nous donne une partition de Madame Hildegarde de Bingen, un nom que je n'avais jamais entendu parler et qui m'a bien fait rire, qui nous a tous bien fait rire, Hildegarde. Et donc, bon, on a travaillé le morceau, mais arrivé chez moi, j'ai vraiment voulu savoir qui était cette brave femme. Et là, ça a été l'étonnement. Hildegarde est une femme du XIIe siècle, qui était musicienne, qui était médecin, qui était mystique. Son œuvre est toujours accessible. Et là, j'ai été curieuse, la curiosité féminine m'a prise. Et donc, j'ai commencé à fouiller qu'est-ce qu'elle a fait. En plus, il y avait le côté mysticisme, ça m'amusait aussi. Voilà, donc j'ai vraiment fouillé son parcours. J'ai appris énormément de choses. D'abord, pourquoi, comment une femme pouvait être aussi instruite, ce qui était assez étrange pour moi. Au Moyen-Âge, j'avais des préjugés, comme tout le monde, sur le Moyen-Âge. Et à force de chercher, je trouvais que tous mes préjugés étaient faux. Et donc, j'ai décidé d'étudier le Moyen-Âge. Voilà.
Alors, quels préjugés on peut avoir sur le Moyen-Âge, Sylvie ?
Alors, les préjugés, c'est une période affreuse, sombre, cruelle, sale. Les femmes étaient, des serves. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre ? La vie était absolument horrible. Voilà, donc tout ça est pas tout à fait vrai.
Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs un peu la période du Moyen-Âge ? Parce que ça aussi, c'est un préjugé. On a l'impression que ça a duré plus que ça.
Alors, ça a duré très longtemps. Le Moyen-Âge a commencé au 5e siècle, s'est terminé au 15e siècle, c'est-à-dire depuis la chute de l'Empire romain au début de la Renaissance. Donc, c'est 10 siècles d'histoire. Alors, bien sûr, il y a des évolutions. Hein, et c'est pour ça que les historiens divisent le Moyen-Âge soit en deux périodes, soit en trois périodes. Si on la divise en deux périodes, c'est le haut et le bas Moyen-Âge. Le haut, c'est du 5e au 12e siècle, et le bas, c'est du 13e au 15e. Si on le divise en trois, moi je pense qu'il faut, enfin ça c'est perso, je pense qu'il vaut mieux le diviser en trois, c'est du 5e au 10e, ça reste le haut Moyen-Âge. Le 11e, 12e, on va dire que c'est le moyen Moyen-Âge, et le 13e, 15e siècle, beaucoup plus évolué, c'est le bas Moyen-Âge.
Sylvie, vous faites en ce moment, au musée de l'Archerie et du Valois, un cycle de conférences, le Moyen-Âge en question. Alors, toutes ces conférences au musée de l'Archerie, ça va parler du Moyen-Âge en général ?
Non, je vais... Alors, ça va parler principalement du bas Moyen-Âge. Il y a une raison pour ça. Comme je parle du peuple, c'est-à-dire de la population, les écrits que nous avons, je me base sur des manuscrits, je me base sur des archives, je me base sur des documents administratifs, ils apparaissent surtout à partir de l'université qui va parler plus de, du peuple. Pourquoi ? Parce qu'au haut Moyen-Âge, ceux qui écrivaient, c'était les moines. Les moines étaient des fils de nobles. Donc ces moines parlaient de la noblesse, principalement. Ce n'est pas mon sujet d'intérêt. Il y a très peu de documents. Donc on extrapole beaucoup. Bon, moi, je préfère me baser sur du concret. Donc je me base sur les manuscrits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'essor de l'université, ce mot n'est pas le même qu'aujourd'hui. Université, c'est une communauté de professeurs et d'étudiants. Mais donc à l'essor de l'université, on aura donc un enseignement laïque et religieux. On parlera beaucoup plus de la population. Et donc, on a plus de documents. Donc, en fait, par exemple, hier, la conférence d'hier, j'ai commencé à partir du XIe siècle. Mais en général, je parlerai principalement du XIIIe au XVe siècle parce que, bon, d'une part, on a, je disais, les manuscrits, mais il y a aussi autre chose. Il y a les enluminures. Et là, les enluminures, on a aussi donc du document visuel. Quoique, il faut faire attention avec les enluminures parce qu'il faut être prudent quand on interprète une enluminure, parce que l'enlumineur, parfois, valorisait son commanditaire. Et le commanditaire, c'était quelqu'un aisé, c'était la noblesse ou un riche bourgeois. Donc, il fallait le mettre en valeur par rapport aux autres. Donc, il faut toujours être un peu prudent avec les enluminures. Donc, voilà, donc il y avait, pour le bas Moyen Âge, des documents écrits et des documents visuels. D'où mes conférences basées plutôt sur cette période.
Comment vous faites pour trouver tous ces documents, ces manuscrits ? Vous allez dans quel endroit ?
Je vais dans les musées, beaucoup dans les musées, dans les archives, archives nationales, dans les abbayes aussi, parce que les abbayes gardent beaucoup de documents. Donc pour notre région, c'est beaucoup l'abbaye de Saint-Denis. Et puis bon, les conseils généraux aussi ont des documents, un peu moins quand même. Bon, mais c'est surtout j'ai beaucoup travaillé dans les musées, dans les archives de musées.
Les portes s'ouvrent quand vous arrivez ?
Oui, tout à fait. Et toujours très, très aimablement. En fait, tout le monde peut y aller. Simplement, il faut avoir un projet. Parce que quand on vous sort, par exemple, quand j'ai travaillé sur le Paris historique, par exemple, j'étais à Cluny, je voulais, par exemple, une reproduction, une iconographie, par exemple, du cimetière des Innocents, ils m'ont sorti ça. Donc, c'est quelque chose de très fragile. Dans la mesure où vous avez un projet, les portes vous s'ouvrent.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de rechercher des documents au musée de l'Archerie et du Valois ?
Pas encore, mais hier on parlait par exemple pour les arcs et les arbalètes, ça m'intéressait puisque dans le Moyen-Âge il y a la guerre de 100 ans, la France a perdu toutes ses batailles au départ, à cause justement de cette différence avec, je dirais, les Anglais qui avaient des archers, des arcs, et nous étions encore à l'arbalète. Donc l'arc contre l'arbalète, c'est un peu le pistolet contre la mitraillette. L'archerie m'intéresse beaucoup.
Si vous étiez au Moyen-Âge, quelle personne seriez-vous ?
Oh, ça c'est intéressant ça. Là, je ne sais pas. Bien sûr que moi qui suis l'éternelle étudiante malgré mon grand âge, j'aurais pas pu faire d'études. Donc ça, bon, on l'oublie. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel personnage. Peut-être un troubadour. Peut-être ces personnages extraordinaires, le ménestrel. Le ménestrel qui était un personnage extraordinaire puisqu'il était poète et musicien, c'est lui qui composait la musique. À un moment donné, il y a eu l'école de la musique au Moyen-Âge. Peut-être je serais plus... je me vois bien ménestrel, oui.
Quelle est la différence entre un troubadour et un ménestrel ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Et oui, il y a une différence. Il y a une très grande différence. Donc il y a les troubadours trouvères, ça c'était selon le nord ou le sud de la France. C'était quelqu'un qui... comme on pourrait dire par rapport à aujourd'hui, un interprète, voilà. Le troubadour et le trouvère, c'était des interprètes, des excellents interprètes et de très bons musiciens. le ménestrel, c'est le compositeur, qui pouvait aussi interpréter. Et puis, une fois qu'on parlait de ménestrel, le ménestrel avait beaucoup plus de chance que le trouvère ou le troubadour, parce que le trouvère et le troubadour, bah, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, c'était l'homme de la rue, c'était l'art de la rue. Hein, aujourd'hui, on pourrait dire ça, voilà, les artistes de la rue. Le ménestrel, lui, il avait déjà un poste, il était payé par un noble, très souvent dans les cours princières ou de noblesse, on avait son ménestrel. Et il y avait une école de musique de Paris, il y avait déjà l'école de Notre-Dame, donc il y avait une école de musique et le ménestrel en sort. Donc il composait, il interprétait, il mettait aussi les paroles, donc c'était véritablement le grand artiste.
Est-ce qu'il y a des ménestrels connus ?
Oui, bien sûr qu'il y en a des connus. Alors là, vous me posez des colles. Oui. Je crois que Adam de la Halle était ménestrel à vérifier. Mais oui, il y a des ménestrels connus et on joue aujourd'hui de leur composition. Alors un très grand compositeur du Moyen-Âge, c'est Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut qui a fait la révolution, qui a fait une révolution musicale. On appelle ça l'Ars Nova. En fait, c'est Philippe de Vitry, puis Guillaume de Machaut qui l'a diffusé, l'Ars Nova qui a été banni par le pape. Parce que, bon, il changeait le rythme, on commençait à bouger son corps. Les moines, ils auraient bien aimé ça, mais le pape a dit que c'est inadmissible de bouger son corps comme ça, de donner du rythme, alors qu'avant, nous avions l'art sacré où c'était monocorde. Là, il commence à faire de la musique à trois voix. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, on est au XIVe siècle.
C'était l'Elvis Presley de
absolument, oui, on pourrait dire ça, absolument, c'était absolument, oui.
Sylvie est passionnée par ce sujet. Vous avez aussi une autre passion, il me semble.
Oui, mon métier au départ, en fait, c'est pharmacien. Et à force d'avoir le lundi matin des cueilleurs ramasseurs de champignons qui me demandaient de déterminer si c'était bon ou si c'était pas bon, ben, je me suis dit, c'est plus marrant d'aller dans les bois, aller chercher, déterminer les champignons. Donc, j'ai passé un doctorat de botanique et j'ai commencé à inventorier, à essayer de me placer. C'est pas facile d'être botaniste en tant que femme parce qu'à l'époque, c'était un métier d'homme. Et quand on voyait une femme arriver se disant botaniste, on disait « Oh, elle s'intéresse aux petites fleurs, la dame !» Donc, c'était très vexant. Donc, il fallait absolument que je me place. Et j'ai eu beaucoup de chance, bon, il y a un peu de chance dans la vie. Et j'ai entre autres inventorié la flore de la vallée d'automne. Voilà, parce qu'à l'époque, il y avait les znieffes, ce qu'on appelait les znieffes, c'est-à-dire qu'il fallait inventorier toute la flore de France pour déterminer les zones sensibles. Ensuite, il y a eu Natura 2000, etc. Mon rôle, c'est d'aller sur le terrain, d'inventorier la flore et de trouver les milieux sensibles floristiques. Avec moi, il y avait aussi les entomologues, enfin toutes les autres disciplines de la nature. Donc, c'était une période absolument passionnante.
Vous avez arrêté ce métier ?
Oui, j'ai arrêté ce métier parce que, je dirais, maman est tombée gravement malade. Elle a été atteinte d'Alzheimer et là, j'ai préféré m'occuper d'elle. Et Alzheimer, on peut rien faire d'autre que de s'occuper d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer. Donc, j'ai arrêté le métier de botaniste avec beaucoup de regrets. Mais par contre, je me suis mis à plein temps à écrire. Donc, pendant la journée, je m'occupais de ma maman Alzheimer et la nuit, j'écrivais.
RVM, Radio Valois-Mulsien, entretien avec Sylvie Tepper, autrice et passionnée par le Moyen-Âge. Alors, vous écriviez sur quoi ?
Au départ, surtout sur le théâtre. J'ai commencé plus exactement par des contes sur les plantes, avec des arbres qui parlent, et j'ai eu le prix du conte. Et puis ensuite, je suis passée aux nouvelles. Et puis l'opportunité, c'était le théâtre. C'est une passion aussi, le théâtre. Et donc j'écris pendant une dizaine d'années sur le théâtre avant de faire le grand pas vers le roman.
Si on revient sur le Moyen-Âge, vous avez aussi écrit un livre parlant de cette période.
Oui, ayant étudié, comme je l'ai dit tout à l'heure, ayant eu la passion, la découverte et la passion du Moyen-Âge, adorant écrire, le passage en fait du théâtre au roman est venu, un roman sur le Moyen-Âge, ça a été le déclic, c'est un défi en fait, ce roman sur le Moyen-Âge, une trilogie, parce que à Plaïd, il y a une rue qui s'appelle Messire Jean l'Effrayé. C'est une rue qui est proche de l'église. Pour moi, c'était le Moyen-Âge. D'une part, il y avait Messire, et d'autre part, il y avait le mot l'effrayé, qui est typique du Moyen-Âge. Donc, je me suis dit, pour qu'un trouillard laisse son nom à une rue, c'est qu'il a dû faire quelque chose de bien. Alors, pour quelqu'un qui écrit, pour quelqu'un qui est passionné par le Moyen-Âge, cette rue m'a interpellée. Donc, après maintes recherches, on n'a rien trouvé sur le personnage. J'ai de nouveau plongé dans les archives, je tirais toutes les portes, les sociétés d'histoire de Senlis, de Beauvais, etc. Personne ne connaît rien sur ce personnage et beaucoup ont cherché sur ce personnage. Donc un défi m'a été lancé, écrit un roman sur Jean l'Effrayé. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit donc le roman « La légende de Jean l'Effrayé ». Donc c'est un roman qui se passe au XIVe siècle, ma période préférée.
Ce personnage, Messire Jean l'Effrayé, vous en avez fait un roman, vous avez imaginé sa vie.
C'est extraordinaire pour un auteur quand on lui donne carte blanche. Donc j'avais la carte blanche pour ce personnage, j'avais mon bagage médiéval. Donc le décor, je dirais, historique était absolument véridique, il est solide, je dirais. Il ne faut pas avoir peur de lire un roman historique parce que c'est comme un roman. Hein. Moi, je vois au Salon du Livre, on me dit parfois « Oh, j'aime pas les romans historiques, je connais rien à l'histoire. » À ça, je réponds « Est-ce que vous connaissez Jean-Marie Dupont ?» On me regarde, on fait « Non ben, ». Je dis « C'est pareil. » Sauf qu'il ne s'appelle pas Jean-Marie Dupont, il s'appelle Jean l'Effrayé. C'est la seule différence. L'auteur fait tout pour que vous ne soyez pas perdu. Ce n'est pas un roman d'histoire, c'est un roman historique, c'est-à-dire qu'il se passe à une époque. Donc on va apprendre comment ils vivent, mais il n'y a pas de différence, la nature humaine est la même. Et dans mes romans, c'est comme dans mes conférences, je ne parle que de la population. Donc en fait, on se retrouve. Quand une femme ou un homme souffre parce que l'enfant ne va pas bien ou parce qu'il doit lutter pour vivre, c'est un peu notre quotidien. La nature humaine est la même. Ok, ils ne s'habillent pas pareil, ils ne mangent pas pareil, ils n'ont pas des téléphones portables. Donc à part la technologie, ce n'est pas différent. Jean l'Effrayé est traqué. On va essayer de protéger Jean l'Effrayé en lui cachant une certaine vérité. Donc c'est un peu le suspense de tout le livre. Qui est véritablement Jean l'Effrayé? Pourquoi est-il traqué? On le saura, mais à la fin. Donc il y a deux autres personnages, un haut en couleur, un charretier, brut de coffre, mais avec un cœur d'or. Et un prêtre, on ne peut pas parler du Moyen-Âge sans parler de l'Église. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris le XIVe siècle. Parce que le XIVe siècle, c'est la période où il y a les prémices de tout. En ce qui nous intéresse pour ce livre, les nouvelles mouvances religieuses, donc les prémices du protestantisme. On est au XIVe siècle, et je parle de prémices de protestantisme, et pourtant c'est bien vrai. Par exemple, mon personnage ne fait que reproduire certains religieux qui ont refusé de faire la messe en latin, parce qu'ils disaient qu'il faut être plus proche du peuple qui est en souffrance. Au XIVe siècle, ils étaient en grande souffrance. Il y avait les épidémies, il y avait la peste, il y avait la guerre, il y avait les catastrophes naturelles. Donc, certains religieux ont dit qu'il faut être beaucoup plus proche du peuple. Pour les consoler, il ne faut pas leur parler en latin, ils n'y comprennent rien. Il faut parler leur langue. C'est un peu le protestantisme. Il ne faut plus leur tourner le dos, comme on le faisait, mais il faut être face à eux. Donc, c'est aussi un peu le protestantisme. Ils étaient contre le pape, encore un indice. Et surtout, ils leur faisaient discuter et essayer de leur faire penser par eux-mêmes. Et ça, l'Église l'a toujours refusé. L'Église a toujours refusé que la population puisse penser tout simplement. Elle peut annoncer, elle peut répéter, mais il faudrait peut-être pas qu'elle pense. C'est un danger. Donc en fait, ce personnage, c'est un personnage extraordinaire, attachant, me disent les lecteurs. Il s'appelle le père Thomas, qui lui va être le principal protecteur de Jean l'Effrayé, et en même temps lui-même sera traqué puisqu'il a ses idées nouvelles. Donc en fait, il y aura des hommes qui, comme le Chartier, qui va être un adepte du prêtre. Donc en fait, il y a deux personnes traquées, c'est Jean l'Effrayé et ce prêtre, qui vont faire un très grand parcours ensemble.
Vous avez écrit 3 livres sur Jean l'Effrayé.
Bon, c'est un peu l'éditeur qui a voulu que je fasse 3 tomes. Hein. Au départ, c'était un seul livre. Mais c'est l'enfance de Jean l'Effrayé qui se passe à Senlis. L'adolescence de Jean l'Effrayé qui se passe à Paris, avec l'université. Et le troisième qui se passe dans notre région, avec la Grande Jacquerie. Donc là, il va être en plein milieu. Et là, donc, on va pouvoir comprendre pourquoi cette Grande Jacquerie, puisqu'il sera dans le milieu paysan, donc lui totalement dépaysé, puisqu'il a toujours été dans les villes, donc perdu dans ce milieu de campagne. Il y est venu parce qu'il y avait la Grande Peste, il fallait fuir Paris. Donc il est arrivé à Plailly, obligatoirement, puisque c'est le nom de sa rue. Il a dû s'adapter à la vie de la campagne. Or, c'est pas facile, parce qu'à l'époque, tous ceux qui n'habitaient pas un village était un étranger, même si vous habitiez le village d'à côté. Vous êtes un étranger et on avait peur des étrangers. Donc il y a cette adaptation et toute cette difficulté qu'avait le milieu rural et jusqu'à leur éclatement, leur révolte, la Grande Jacquerie.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, votre Jean l'Effrayé sera le héros d'une série ?
Alors, il n'y aurait pas eu le Covid, il y avait un film de prévu. Le Covid a fait beaucoup de mal, je dirais, à mon roman. Déjà, le musée de l'Archerie voulait faire une journée sur Jean l'Effrayé, avec des comédiens, des musiciens, enfin, ils avaient prévu quelque chose autour de Jean l'Effrayé. Et puis surtout, bon, il y avait ce film prévu, qui n'a pas eu lieu et qui n'a pas repris après. Je n'ai pas été recontactée à la fin du Covid.
Est-ce que vous aviez mis un acteur sur Jean l'Effrayé ?
Ah, c'est intéressant. Quel acteur aurait pu être Jean l'Effrayé ? Oui, je me suis posé la question. D'ailleurs, c'est intéressant comme question pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'écriture. On dit toujours, pensez à un acteur pour écrire un personnage. Quand j'ai écrit Jean l'Effrayé, je n'ai pas pensé à un acteur. Mais après, quand on parlait film, c'est vrai que je me suis dit, quel acteur ? Alors, j'avais pensé, bon, enfant, c'est enfant. Mais pour l'homme, j'aurais bien vu peut-être Daniel Auteuil, parce que ce n'était pas un bagarreur au départ. Ce n'était pas un bagarreur. Donc, un homme un peu stable, un peu... J'aurais bien vu Daniel Auteuil, oui.
Bah, faudrait peut-être lui écrire et lui dire, voilà, je vous ai vu dans mon roman...
Peut-être, oui, peut-être. Oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être...
Aller carrément lui demander.
Oui, oui.
Et puis peut-être que, vu son expérience, il aurait peut-être aussi des gens avec qui travailler.
Oui, c'est possible, possible. Oui.
Parce que c'est vrai que Jean l'Effrayé, ce nom, ça donne envie d'en savoir plus, en tout cas.
Moi, ça a été vraiment, je dirais, un grand étonnement, parce que... L'effrayé, c'est vrai que bon, il a donc dû être effrayé, puisqu'à l'époque, c'est une caractéristique. Donc je dis, et en plus, un homme trouillard qui a un nom de rue, c'est donc, il a dû dépasser sa peur à un moment donné. Ça m'a vraiment, vraiment intéressée.
En tout cas, ça fait travailler l'imaginaire.
Oui, on part dans l'imaginaire. Et ce qui est extraordinaire quand on écrit... C'est qu'à un moment donné, et moi je recherche un peu ce moment, hein, c'est addictif, c'est qu'on n'est plus maître de sa plume, c'est-à-dire qu'on devient Jean l'Effrayé, et c'est lui qui
écrit.
Qui écrit. Mais c'est vrai, parce qu'au départ j'avais fait un plan, je fais toujours des plans quand j'écris, que je ne suis jamais. Au départ, il y a un plan, oui. Mais je sais très bien que je ne le suivrai pas, parce qu'à un moment donné, je vais être pris par le personnage, et c'est lui qui va me dire où on va. Et ça, c'est je dirais, absolument, je dirais presque jouissif.
Et alors, ce livre, où est-ce qu'on peut le trouver ?
Alors, actuellement, c'est comme je fais des conférences sur le Moyen-Âge au musée de l'Archerie, ils sont au musée. Donc, vous pouvez les trouver au musée de l'Archerie.
Très bien.
Sinon, c'est dans toutes les librairies. L'édition, c'est les éditions Enforta. C'est une édition qui est spécialisée dans le roman historique.
Chers auditeurs, si vous êtes passionnés d'histoire autour du Moyen-Âge, ne loupez pas ce livre, Jean l'Effrayé. Et écoutez aussi les trois dernières conférences de Sylvie Tepper au musée de l'Archerie et du Valois, le mardi 20 juin à 19h, Comment se nourrit-on au Moyen-Âge ? Le mardi 19 septembre à 19h, Comment s'amuse-t-on au Moyen-Âge ? Et le mardi 17 octobre à 19h, Comment se soigne-t-on au Moyen-Âge ? Est-ce que vous avez encore des choses à dire aux auditeurs et auditrices autour de vos conférences, de votre livre ?
Non, simplement que c'est une période absolument passionnante et que je suis un peu sûre de pouvoir les surprendre.
Merci d'être venue dans les studios de RVM. C'était avec plaisir de vous entendre et à très bientôt.
À bientôt.
C'était un entretien avec Sylvie Tepper, autrice et passionnée par le Moyen-Âge. Vous pouvez retrouver ses conférences au musée de l'Archerie et du Valois. Bonne écoute sur RVM.